Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Cette semaine, dans Flashback, nous recevons la réalisatrice Diane Curis pour la ressortie en salle de Cocktail Molotov et la sortie DVD d'Un homme amoureux. Elle fait partie du paysage français depuis plusieurs décennies, auteure d'une quinzaine de longs métrages, de Diabolomante, son premier film, à Coup de foudre, en passant par Labo Lépin, Les Enfants du siècle et Sagan. Nous avons eu le privilège de rencontrer la réalisatrice Diane Curis à l'occasion de la ressortie dans les salles le 20 juin de Cocktail Molotov, son deuxième film, réalisé en 1980, et de l'édition DVD d'Un homme amoureux.
Diane Curis, bonjour, merci infiniment d'être dans notre émission Flashback, à l'occasion donc de la ressortie en salle et en DVD de Cocktail Molotov. Alors Cocktail Molotov, c'est un road movie sur trois jeunes, Jean Durand, mai 68, qui vont vadrouiller de Venise à Paris. Pourquoi avez-vous souhaité que cet événement soit plutôt filmé en comme une toile de fond plutôt qu'il soit le cœur du film?
Quand j'ai eu envie de faire un film sur mai 68, j'étais assez proche de cette époque. C'était 8 ans plus tard, je crois. Je venais de faire Diabolomante. Et puis, je sais pas, mai 68, j'avais 20 ans. Et je dois dire que l'époque m'a marqué, comme tous les gens qui avaient 20 ans, en 68. Et je pensais qu'il fallait absolument faire un film sur les événements, autour des événements. Je voulais les barricades, l'esprit de 68 et tout ça. Et je me suis très vite aperçue que c'était impossible de refaire vivre, même sur la toile et pour un court instant, et surtout pour un court instant, l'énormité de ce que ça avait été. Alors j'ai pris la tangente, j'ai choisi l'idée qu'on allait rater mai 68, qu'on allait passer à côté, et qu'en fait ce qu'on allait vivre c'était quand même mai 68, c'était quand même l'esprit de mai qui allait souffler sur cette aventure, sur ce road movie. Et j'ai donc échappé aux barricades, on arrive aux barricades que à la fin du film, et je me suis dit qu'en racontant l'intimité, le voyage, la découverte de l'amour, de la sexualité, enfin tout ce qui se passait dans la tête de ces jeunes gens qui ont entre 18 et 20 ans, je me disais que j'allais plus proche du récit de mai 68 que jamais, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le road movie.
C'est un film qui a une grande authenticité, enfin je trouve en le voyant. En quoi est-il autobiographique? Je suppose qu'il l'est en partie. Le personnage d'Anne, interprété par Élise Caron, est-ce que c'est un peu vous ou complètement vous?
C'est un peu moi, comme dans tous les films que j'ai fait, je suis toujours un peu dedans. Même quand je fais Sagan, je suis un peu dans Sagan, même si j'ai pas connu Sagan. Mais je pense que je suis pas tout à fait capable, je crois, d'écrire vraiment des films dans lesquels je ne puisse pas être inscrite. Il se trouve que après Diabolomante, le personnage principal s'appelait Anne. Enfin, le personnage de la petite fille s'appelait Anne. C'est Anne, 5 ans plus tard, qui elle a grandi. C'est plus que 5 ans plus tard, on est en 63, 68, voilà, oui, si, 5 ans plus tard. Et c'est encore moi, oui, dans d'autres circonstances, j'ai pas vécu exactement les mêmes événements, mais je suis beaucoup, beaucoup dans le personnage, bien sûr. Et les gens qui m'entouraient, les amis qui m'entourent, sont évidemment ils font partie de ma vie aussi. Oui, c'est un film encore une fois très autobiographique, ouais. Même si je me suis pas battue avec ma mère physiquement.
Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a des moments, des rencontres que font les trois personnages, et il y en a une en particulier avec un policier qui raconte comment il a vécu les événements et la violence des événements. C'est une des scènes les plus fortes du film. C'est une scène qui était déjà écrite ou est-ce qu'on sent que c'est une rencontre très spontanée? Enfin, c'est quelque chose qui arrive comme ça et qui est très authentique, qui n'est pas du tout joué. C'était quelque chose qui était totalement prévu au scénario.
Ah oui, c'est totalement écrit. La scène est totalement écrite. Un peu comme j'avais raconté, j'avais fait faire le récit de Charonne, de la manifestation de Charonne par Corinne Dacla dans Diabolo, et c'était un moment d'une grande intensité, j'ai eu envie de faire parler un CRS, justement parce qu'on est tellement de leur côté, ces trois jeunes là qui regardent les événements sans pouvoir les vivre, ils les lisent dans les journaux, ils les écoutent à la radio, ils n'ont qu'une hâte, c'est de remonter à Paris, et ils sont bloqués par les grèves, donc ils courent vers les barricades, ils remontent doucement, très lentement, et avec beaucoup de difficultés vers Paris. Et j'ai eu envie, oui, de faire parler un CRS. Je crois que j'ai dû lire des Paris Match et des interviews. Et je me suis un peu documentée, comme je l'avais fait pour Diabolo, d'ailleurs. Je ne sais plus exactement si je suis tombée sur un récit par un CRS. Ou en tout cas, j'ai eu envie de lui donner la parole. Et je me suis projetée de l'autre côté des barricades. C'est Marco Perrin, c'est un acteur. Hein, il joue un texte appris. C'est pas du tout improvisé. Il est juste très bon. Et il était merveilleux. Et la scène est particulièrement longue. Alors là, quand j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, quand je l'ai numérisé, je trouvais que c'était quand même un peu long. Je me suis dit, quand même, t'exagères. C'est une scène qui dure, je sais pas, presque 5 minutes. Enfin, je sais pas, elle est très très longue. Et en même temps, en effet, c'est une scène qui est marquante parce que on n'entend jamais parler, surtout à cette époque. Enfin, un CRS qui dit sa vérité, qui dit, il est à moitié fou, il est devenu à moitié fou, le pauvre. Il a vécu un vrai traumatisme, de la même façon que. Et c'est lui, pourtant, qui était chargé de taper sur les jeunes. Bah voilà, j'ai bien aimé faire cette scène, mais. Tout le film est comme ça, c'est une succession de rencontres avec des gens de la société, quoi. Il y a un couple de bourgeois, il y a ce petit étudiant d'un lycée technique, il y a son père qui est flic, il y a un routier en grève, enfin, ou qui va être bloqué par les grèves, etc. etc. C'est plein de rencontres, et en même temps, ils vont à la rencontre d'eux-mêmes, ils vont à la rencontre de leur jeunesse, quoi. Voilà, ils sont. Moi, j'ai été frappée en revoyant le film, donc. En effet, je ne l'avais pas vu depuis toutes ces années, de vous dire, parler d'authenticité. Oui, je trouve qu'il est vraiment, vraiment l'esprit. Enfin, et dans le dialogue, et dans les costumes, et dans la façon de se comporter, je trouve qu'il correspond vraiment à ce qu'on était, pas tous, hein, mais beaucoup de gens en 68. Alors là, c'est l'année de la commémoration, de la célébration des 50 ans, ça fait bizarre, parce que ça a passé comme je ne sais pas. 2 ans, mais dans tout ce qu'on voyait de documents, d'interviews, de les AG, les manifestations, etc., je trouvais que l'esprit y était, mais là j'ai l'impression que parce que c'était une fiction, c'est vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de fiction sur 68, il y en a eu très très peu. Il y a eu La Carapate, il y a eu ce récent film de Bertolucci, il y en a eu peu. Et je trouvais que celui-là, bizarrement, parce que j'étais encore dans cet âge-là, et que je m'étais souvenu de tout. Je pense qu'il est assez proche vraiment de la vérité de cet événement culturel plus que politique, de cet événement sociétal, on va dire. Ouais.
On aurait dû parier, j'étais con, je crois.
Tu crois qu'elle nous a vus?
J'en sais rien, t'as qu'à y aller, comme ça elle va te voir.
Vas-y. Qu'est-ce que t'attends là? Vas-y.
Tu crois vraiment que je suis pas capable?
Non, j'ai jamais dit que t'étais pas capable, j'ai dit que tu le ferais pas, c'est pas pareil. Finalement, peut-être que t'es pas capable, j'en sais rien.
Ça tombe mal, on se retrouve dehors.
Tu arrêtes tes conneries.
Voilà, je fais pas partie du spectacle. Je m'appelle Frédéric et j'aime une fille qui s'appelle Anne. Elle est là. Et elle aussi elle-même. L'histoire, c'est ça. Frédéric aime Anne, et Anne aime Frédéric, seulement voilà, ils n'ont pas le droit de s'aimer, c'est défendu. Je sais pas très bien pourquoi je suis monté sur cette scène, mais...
Eh ben t'as qu'à descendre, ouais.
Mais ce que je voudrais vous dire, et je crois qu'il me reste plus beaucoup de temps, c'est qu'il y a des jours où on sait pas quoi faire.
Mais lâchez-moi, foutez-moi la tête.
Vous tournez ce film à la fin des années 70, après le succès de Diabolomante. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage?
Bah, autant Diabolo avait été un tournage très facile et heureux et léger. Et c'était comme une espèce de revanche. Je retournais sur les lieux du crime, je retournais dans mon lycée, le lycée où j'avais vécu ces années que je n'aimais pas du tout. Et donc là, il y avait comme une jubilation à faire Diabolo. On exorcisait quelque chose, quoi. On montait sur les tables, on écrivait ce qu'on voulait sur les tableaux noirs. Et puis les petites filles de Diabolo, elles étaient encore. C'était leur été de vacances. Alors bon, il y avait un côté très joyeux, festif. Pour Cocktail, je crois que c'était plus dur. Peut-être que le deuxième film est un film. Il a été plus douloureux à faire. Bon, d'abord, on bougeait beaucoup, on se déplaçait tout le temps. Je sais pas, j'ai pas un souvenir d'un bonheur fou de tourner, j'ai un souvenir des difficultés du tournage, plutôt. Et pourtant, j'avais 3 acteurs merveilleux que j'aimais beaucoup, je m'entendais très bien avec eux, mais j'avais un sentiment de solitude, peut-être que Diabolo m'avait un peu isolée, j'ai repris pourtant toute la même équipe technique, quasiment. Mais c'est comme si les choses avaient changé, c'est comme si, ayant fait cet énorme succès, quelque part il fallait que je paye, quoi. C'est un tournage moins amusant, moins heureux, puis le film a moins marché. Il est quand même sorti aux États-Unis, il est sorti dans pas mal de pays et tout ça, mais c'était comme le parcours obligé, quoi, là. Voilà.
François Cluzet interprète l'un des rôles principaux dans ce film, il était totalement inconnu. Comment l'avez-vous découvert? Comment vous l'avez-vous rencontré et choisi pour ce film?
Je l'ai vu dans un café-théâtre jouer une pièce de Jean Genet qui s'appelait Haute Surveillance. Et il était absolument formidable. Et donc je l'ai vu et j'ai dit je vais écrire pour lui. Et je n'avais pas encore écrit le scénario. Je crois que j'étais dans le début de l'écriture. Et il m'a inspiré vraiment j'ai senti que cet acteur avait quelque chose de très naturel, en même temps de très profond, de très écorché, enfin bon, qu'il était vraiment intéressant. Et alors évidemment, après Diabolo, on lui a promis une carrière à la Dustin Hoffman immédiate, qui n'est pas arrivée, donc il a dû en vouloir au film, et m'en vouloir quelque part, je présume, parce qu'il était vraiment la petite révélation du film. Et il était formidable, en effet, il est charmant, il est drôle, il joue bien, enfin bon, il est tout ce qu'il va devenir, quoi. Mais je l'ai repéré comme ça au café-théâtre, tout bêtement.
Et dans le film, dans des rôles un peu plus secondaires, vous avez repéré aussi une génération qui arrive à ce moment-là. On croise dans le film Christian Clavier, Patrick Chenet. C'est intéressant de le revoir avec le recul. C'est toute une génération qui arrive à ce moment-là.
Clavier, on était très copains. Il y avait déjà le Splendide. Hein, ils existaient déjà. Moi, j'étais assez copine avec eux. J'avais même joué au Café de la Gare. Donc, on se côtoyait. Et j'aimais beaucoup, beaucoup toute l'équipe du Splendide. J'allais les voir tout le temps. Et donc, Clavier, je lui ai demandé est-ce que tu veux bien faire un tout petit rôle? Il n'avait pas encore fait de cinéma, vraiment. Et il m'a dit mais bien sûr. Puis, je m'écrirai mon texte si tu veux. Et on se l'est improvisé tous les deux. Chenet, je le connaissais un peu du théâtre aussi. Parce que moi, j'ai été comédienne. Donc, j'étais un petit peu de l'autre côté avant. Et j'ai eu la chance finalement de commencer dans ce métier avec toute une génération d'acteurs, toute cette génération, Depardieu, Huppert, Miu Miu, enfin tous ces gens-là, c'était mes collègues, on va dire. Donc j'ai eu cette chance-là. Et d'ailleurs, dans Diabolomante, tous les rôles des profs, ce sont que des gens avec qui j'ai joué au théâtre ou à la télévision. De Nadine Allary, en passant par Jacques Crispal, tous ces acteurs-là qui font les profs, quoi. C'est que des gens que je connaissais. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas les autres acteurs.
Et vous collaborez à nouveau avec Yves Simon, là encore, la bande originale est très présente. Après les succès de Diabolomante, nouvelle collaboration qui accompagne très bien ce road movie.
Oui, moi je suis très fidèle, hein. Quand ça marche bien, je continue. Et là, je n'avais pas l'idée de prendre un autre musicien. On a rencontré Murray Head. Je lui disais, je voudrais un chanteur qui ait une belle voix, un chanteur anglais à la Cliff Richard. Je disais, j'aimerais bien qu'il ait une belle voix comme ça. Alors il a dit, mais j'en connais un. Et il m'a présenté Murray. Et on a fait une troisième collaboration avec Yves Simon. Il a écrit la musique d'un film qui s'appelait Après l'amour, avec Isabelle Huppert aussi et Bernard Giraudot. Là, je voyais pas de raison de changer. J'ai changé au moment de Coup de foudre du troisième. J'ai pris Luis Bacalov, qui était un Italien, parce que c'était une musique plus orchestrée. Mais là, je voulais des petites musiques un peu simples, un peu au piano ou à la guitare. Je voulais des choses très comme ça de l'époque, quoi. Je voulais qu'on reste vraiment dans la période. Et c'est une collaboration. On est restés amis toute notre vie, hein.
Et après Coup de foudre, donc le film suivant, vous réalisez en 87 Un homme amoureux, qui vient de sortir en DVD. Et là, on est à l'exact opposé de Cocktail Molotov, puisque là, il s'agit d'une histoire passionnée entre un acteur américain et une jeune italienne dans les décors de Cinecittà, dans un cinéma très romanesque, avec des stars internationales, hein, Peter Coyote, Greta Sketchy, qui à l'époque était quand même une actrice très, très connue, tournée en anglais avec des techniciens de haut vol. Je revoyais le casting, Georges Dolery, Dean Tavola. Laris, c'est pour ceux qui connaissent un peu les techniciens de cinéma, c'est des très grands noms. C'était un vrai, vrai changement de registre pour vous.
J'avais envie, après Coup de foudre, qui a eu un certain succès aux États-Unis, il a eu plus de succès d'ailleurs aux États-Unis qu'en France, puisqu'il a été nommé aux Oscars du meilleur film étranger, etc. Donc il restait un an à l'affiche à New York, je crois. Donc c'était tout à coup, je suis devenue un petit peu la petite coqueluche aux États-Unis. Alors on m'a proposé des sujets là-bas et j'ai passé au miroir aux alouettes, mais faire un film en anglais me plaisait. L'idée d'ouvrir à l'international, ça me plaisait. Je disais, ah tiens, ça serait bien quand même. Je parle bien anglais. À l'époque, je parlais moins bien qu'aujourd'hui, quand même. Et j'ai eu l'idée de faire ce film. Alors, je leur ai proposé. Ils me demandaient des sujets. Alors, j'ai rencontré tous les studios après Coup de foudre, vraiment. Et ils m'ont dit, est-ce que vous n'avez pas une idée? J'ai dit, j'ai une histoire d'amour là qui me plairait bien. J'ai fait un contrat. Alors, ils m'ont fait un contrat, c'était Warner. Et ils m'ont dit, écrivez-le pour nous. On va vous donner un producteur. Et puis j'ai écrit, et puis le producteur me dit « Ah, mais j'aime pas tellement l'histoire, je trouve que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Puis j'étais à l'époque très comment dire, sûr de moi, quoi. Je disais, mais non, mais c'est le film que je veux faire, c'est celui-là, c'est mon histoire, c'est aussi très autobiographique, même si ça se voit moins. Mais j'ai tourné à Tinutita quand j'étais comédienne et j'ai pas voulu céder, donc j'ai dit, bah, rendez-moi le scénario. Donc on a dû leur racheter. Et ici, c'est Michel Sédoux à l'époque avec Camera One qui leur a racheté le scénario. Et on l'a fait, oui, avec tous ces ingrédients, ces éléments, ces techniciens incroyables et ces acteurs incroyables. Il y avait Jimmy Lee Curtis que vous n'avez pas cité, mais et Claudia Cardinal. Et, oui, c'était une aventure, alors assez fantastique celle-là. Parce que Cinecittà, parce que Fellini tournait Intervista sur les plateaux, enfin, et dans les allées du studio en même temps que nous. Et le film, les techniciens à Cinecittà, ils l'appelaient le film de Tavularis. Parce que moi, je n'étais pas du tout connue. Mais lui, par contre, il était le décorateur de Coppola. Et d'ailleurs, un jour, j'arrive sur le tournage à Cinecittà et je dis, oh là, il y a un type qui ressemble à Coppola, c'est incroyable. Et évidemment, c'était lui qui venait voir son ami Tavularis, qui est resté 3 jours avec nous, à nous donner des conseils, comme le parrain. Et non, c'était une belle aventure, cet homme amoureux. Et puis il est sorti, il est allé à Cannes, il a fait l'ouverture du 40e festival, etc. Non, c'était un beau, et pas si différent, et pas si loin de l'autobiographie. Il est aussi très personnel, le film. Mais disons qu'il est plus ambitieux, parce que tout à coup, il y a un peu plus d'argent, et il y a un peu plus de... Oui, il y a un peu plus de cinéma, on va dire.
Tu crois vraiment qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois ?
J'en suis sûr.
Moi, je crois qu'aimer plusieurs personnes à la fois, c'est les trahir toutes. Tu vas me quitter ?
Je déteste qu'on se foute de ma gueule. Tu vas revenir ? Je crois que tu n'aimes qu'une personne à la fois. C'est toi que tu trahis.
C'est un film assez émouvant et pourtant vous avez dit récemment que vous en aviez assez de faire pleurer, que vous préférez désormais faire rire. C'est pas pourtant exaltant d'avoir le pouvoir d'émouvoir le spectateur ?
Si, mais je me suis rendu compte, par exemple, avec le prochain film, celui que je viens de terminer, je viens de tourner un film avec Fanny Ardant et, qui s'appelle Ma mère est folle et son fils, ce sera Vianney qui va jouer son premier rôle et qui est épatant, vraiment formidable. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, alors au fond, c'est peut-être faire rire et pleurer. Et du coup, ce film-là, il est comme ça. C'est-à-dire, Fanny, elle est... Je parle de ce film-là parce que je viens de terminer il y a 2 semaines le tournage. Je pense qu'elle est éblouissante dans le film et on va la redécouvrir, même si on avait besoin de la redécouvrir, mais avec cette palette incroyable qu'elle a. C'est-à-dire, elle est extrêmement drôle et elle est très, 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 très émouvante et selon les scènes. C'est-à-dire que tout le film, on navigue d'une émotion à un rire et parce qu'elle joue un personnage d'une femme un peu barrée. Donc elle est drôle parce qu'elle est en roue libre complètement. Et Vianney, il fait un peu le clown blanc parce qu'il la regarde, maman, mais enfin, tu te rends compte. Et dans les moments d'émotion, elle est bouleversante. Donc finalement, je crois que c'est ça que j'aime, qu'on rit, qu'on pleure. Pas que de la comédie pure. Je ne sais pas faire des comédies pures, c'est pas mon truc. Mais faire un mélange, ça, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire maintenant, ouais.
À l'époque de Diabolomante, Cocktail Molotov, et même durant les années 80, vous étiez l'une des rares femmes cinéastes d'importance en France et même en Europe. C'est une situation qui a changé. Le métier aujourd'hui est de plus en plus... Le métier de cinéaste est de plus en plus pris d'assaut par les femmes, et c'est tant mieux, et les choses changent. Mais comment voyez-vous, vous, cette évolution des femmes cinéastes sur ces 20-30 dernières années ?
Moi, j'ai toujours été très hostile à l'étiquette film de femme. J'ai jamais voulu qu'on me colle cette étiquette. Alors, à tort ou à raison, je trouve très bien que des femmes fassent du cinéma, mais comme des petits, des gros, des roux, des blancs, des noirs. On est cinéaste, on est bon, on est mauvais, on fait des bons films, on en fait des mauvais quelquefois. Et l'étiquette femme m'a toujours paru suspecte. C'est-à-dire, je voulais pas me servir de cette étiquette-là pour que mes films soient... fasse partie de ces festivals, films de femmes. J'avais l'impression que c'était réducteur, que retourner dans un ghetto, ma famille avait été bien des années auparavant. J'ai pas envie d'être enfermée. Et donc j'avais ce sentiment que j'étais, voilà, si on pouvait me considérer comme cinéaste, point. Il se trouve que je suis une femme, mais j'avais pas l'impression de faire un cinéma spécifique parce que féminin. Voilà, parce que ça voudrait dire que c'est différent. Ça veut dire que les femmes traitent de sujets, alors plus quoi, intimistes, petits. Elles ont plus de quoi, d'émotions, de tendresse. C'est pas vrai. Bergman fait des films de femmes et Liliana Cavani fait des films d'hommes. J'ai déjà dit ça il y a 30 ans, mais je le redis. Alors, donc, très bien, mais l'histoire des quotas, l'histoire d'autant de femmes que d'hommes, que les salaires soient égaux, bien qu'il y ait la possibilité pour des femmes de faire du cinéma dans tous les métiers d'ailleurs, que ce soit de la production, Perchman, enfin bon. Mais dire qu'il faut plus de femmes cinéastes, ça veut rien dire. C'est comme plus de femmes peintres aussi et écrivains, d'ailleurs il y en a beaucoup. C'est une question de courage, de culot, d'ambition, de volonté. Alors qu'on les rassure à l'école, qu'on leur dise oui, vous pouvez faire les mêmes métiers que les hommes, tous les mêmes métiers, tous, pilotes, médecins, tout ce que vous voulez. C'est déjà en marche, ça, je crois. Mais voilà, je suis très réticente. Alors c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mon petit chemin à part. Et c'est vrai que j'étais une. Il y avait Agnès Varda, on était quelques-unes quand même. Il y avait Colline Serrault, on n'était pas beaucoup en vrai. Mais il y en avait encore moins aux États-Unis, c'est vrai aussi. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir ouvert la voie. Alors peut-être parce que je me suis pas battue comme femme, mais je me suis battue comme cinéaste, voilà, pour faire un film. C'est du cinéma d'auteur en fait. On espère qu'il est commercial de temps en temps, et on est très content quand ça marche parce que on rassemble les gens, mais pas d'étiquette. Franchement pas.
Diane Curie, ça fait pas mal d'années que vous tournez. Qu'est-ce qui vous donne toujours l'envie de tourner, de raconter des histoires, alors qu'on sait que les films sont parfois des aventures semées d'embûches, longues, qui peuvent durer des années. Qu'est-ce qui vous excite encore dans ce métier?
Moi, j'ai plein de raisons de continuer à tourner. D'abord, je n'ai pas les moyens de m'arrêter. Il faut que je paye mon appartement, qui n'est pas fini de payer du tout. Donc, je ne peux pas m'arrêter. Tout simplement parce que j'ai pas les moyens de m'arrêter. Même si on me pense très riche, c'est pas vrai. Donc voilà, ça c'est un. Deux, je trouve que c'est un métier merveilleux, donc je vois pas pourquoi je l'arrêterais. Si on me laisse la possibilité de continuer, je continuerai jusqu'à ce que je puisse plus marcher. Parce que je crois que j'ai découvert vraiment quelque chose que j'aime faire et que je sais faire. Alors je sais pas, quelquefois je me plante, quelquefois je fais mieux, quelquefois je fais moins bien, mais j'aime tous les aspects de ce métier. J'aime la rencontre, j'aime l'écriture, j'aime l'aspect technique. Maintenant j'aime de plus en plus, et puis maintenant que j'ai un peu plus de maîtrise, j'ai l'impression que c'est encore plus agréable. Voilà, que il y a eu deux périodes dans ma vie. Il y a eu la période inconsciente, je faisais des films sans savoir ce que je faisais, j'apprenais. Donc c'était merveilleux parce que l'inconscience vous donne des ailes, vous prenez des risques, vous faites des films avec des plans interminables ou au contraire très courts, on connaît rien au montage et ça donne quelque chose parce qu'on avait une vision. Et puis quand on a, alors la dernière partie, quand on a un peu plus de confiance et de maîtrise, on sait vers quoi il faut pas aller, et c'est plus agréable et c'est plus facile, quoi. On se plante un peu moins. Voilà. Donc je continue à avoir envie de communiquer avec ça, avec ce médium-là. J'ai pas le courage d'écrire des livres. Je laisse ça à mon fils qui a écrit le scénario avec son copain Pietro Caracciolo. Ils m'ont apporté ce scénario. Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit. Le dernier film que je viens de faire, ouais, c'est pour parler de la carrière. Et là, je viens de faire un film que j'ai pas écrit, justement. Alors j'ai adoré ça parce que j'ai apporté ce que je pouvais apporter, mon savoir-faire, à une histoire qui n'était pas la mienne. Et si je peux aller vers ça de plus en plus, je serais ravie. Moins besoin d'écrire, plus besoin de réaliser. Donc je suis toujours poussée par par l'envie, la confrontation avec le public. J'aime beaucoup l'autre jour quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu aimes mieux comme étape, l'écriture, le montage, le tournage, la post-production, la sortie. Moi j'aime bien quand le film est sorti, la tournée province quand il y en a. J'aime bien rencontrer les gens. C'est le moment agréable. Quand le film marche, évidemment. S'il ne marche pas, on est malheureux. Mais quand on a des réactions, quand les gens vous parlent du film, ça, c'est toujours le moment le plus... C'est le seul moment où on rencontre les gens qui aiment vos films. Et ça, c'est agréable.
Un grand merci à Marion Echard de Malavida pour la réalisation de cette interview. Je rappelle la ressortie de Cocktail Molotov du Dan Curis dans les salles et aussi en DVD le 20 juin, ainsi que l'édition DVD Blu-ray d'Un homme amoureux chez Pathé.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.